Chapitre 45. Ce fut Cassius qui s'aperçut le premier de la trahison et qui tenta de s'y opposer. Il jeta un regard rapide sur ceux qui entouraient Crassus et chercha vainement parmi eux une physionomie rassurante. Ceux qui souriaient et le suréna avec ses yeux peints, ses joues fardées, ses cheveux séparés au milieu du front comme ceux d'une femme, étaient des plus souriants. Ceux qui souriaient, souriaient d'une façon sinistre, comme fait la vengeance satisfaite. Octavius, qui avait continué de marcher à pied, saisit la bride du cheval de Crassus et l'arrêta. Le général n'ira pas plus loin. Mais le suréna frappa du bois de son arc le cheval de Crassus, qui se cabra et essaya de s'arracher à Octavius. Les autres Romains qui accompagnaient Crassus comprirent alors le signe d'Octavius. Ils écartèrent les écuyers et se portèrent en avant du cheval de Crassus en disant « C'est à nous de faire escorte à notre général ». Alors, sans que les hostilités fussent encore déclarées, on s'agita, on se poussa, on fit tumulte. Dans ce tumulte, Octavius tira son épée et, voyant qu'un écuyer avait saisi le cheval de Crassus par le frein et le tirait à lui, il passa son épée au travers du corps de l'écuyer qui tomba. En même temps que l'écuyer tombait, Petronius, qui avait accepté un cheval, tombait aussi de son cheval, mais sans blessure, et d'un coup reçu sur sa cuirasse. Octavius se baissa pour aider son compagnon à se relever, et comme il se baissait, il reçut par derrière un coup qui le tua. Petronius, lui-même, était tué avant d'avoir pu se relever. En ce moment, Crassus, à son tour, tomba. Avait-il été frappé ou tombait-il par accident ? On l'ignore. Seulement, à peine fut-il à terre, qu'un parthe nommé Promaxatres se jeta sur lui et lui coupa la tête d'abord, la main ensuite, la main droite. Au reste, toute cette catastrophe, rapide comme l'éclair aussi, sembla passer au milieu des nuages. Les soldats restés sur la colline étaient trop loin pour bien voir les détails, et de ceux qui accompagnaient Crassus, une partie fut tuée en même temps que lui, Octavius et Petronius. Et l'autre partie, c'est-à-dire 3 ou 4 hommes seulement, profitant de la bagarre, parvinrent à regagner la montagne, et cela, comme on le pense bien, sans songer à regarder derrière eux. Le suréna laissa là le corps de Crassus, examina curieusement sa tête et sa main, à laquelle était son anneau, et les donna à un chef nommé Silacès. Puis il s'avança vers les Romains, et lorsqu'il fut à portée de la voix, « Romains, dit-il, la guerre est finie. C'était à votre général seulement que le roi en voulait. Car ce n'était pas vous, c'était votre général qui avait voulu la guerre. Vous pouvez donc venir à nous en toute sécurité. Ceux qui viendront auront la vie sauve. » Une partie de l'armée crut encore aux paroles de cet homme et se rendit. L'autre partie resta où elle était et la nuit venue, n'ayant plus de chef, se dispersa dans la montagne. Ce furent encore ces hommes dispersés qui eurent la meilleure chance. De ceux-ci, 1500 ou 2000 parvinrent à regagner les frontières, tandis que, de ceux qui s'étaient rendus, on n'en revit jamais un seul. Tous furent égorgés par les Parthes. On rapporte, dit Plutarque, qu'il y eut en tout 20 000 morts et 10 000 prisonniers. Seulement, comme les prisonniers ne reparurent point, on peut les mettre au nombre des morts. Maintenant, passons à l'épilogue de cette effroyable tragédie, sur laquelle nous nous sommes peut-être un peu longuement étendus, ne pouvant échapper à son côté dramatique et surtout philosophique. Pendant que ces choses se passaient en Mésopotamie, à quelques lieues de Carès, Orodès avait fait sa paix avec l'Arménien Artabase. Une des conditions de cette paix avait été le mariage de la sœur d'Artabase avec Pacorus, le fils d'Orodès. On était donc en fait dans la capitale de l'Arménie, tandis qu'on massacrait en Mésopotamie Gaulois et Romains. Ces fêtes, données à propos du mariage des deux jeunes gens, consistaient tout particulièrement en représentations scéniques de l'ancien théâtre grec. Car Orodès, tout barbare qu'il était, parlait un peu la langue latine et très bien la langue grecque, tandis qu'Artabase, auteur dramatique en même temps que roi, faisait comme roi de l'histoire, comme auteur dramatique des tragédies. Or, un soir, au moment où les tables du festin venaient d'être enlevées et où un acteur tragique de Thralès, ville de Carie, nommé Jason, chantait, à la grande satisfaction des spectateurs, le rôle d'Agavé dans les Bacchantes d'Euripide, on frappa à la porte du palais. Artabaz ordonna de s'informer qui frappait. Un officier sortit, puis rentra un instant après, disant que c'était un chef parthe, nommé Sylacès, qui venait donner au roi Orodès de bonnes nouvelles de la Mésopotamie. Le roi Orodès connaissait Sylacès comme un des familiers du Surénat. Sylacès était, en outre, un grand de l'Empire. Sur un signe d'assentiment du roi Artabaz, il ordonna que Sylacès fût introduit. Sylacès commença par se prosterner aux pieds d'Orodès et, en se relevant, il lâcha le pan de son manteau, qui laissa rouler aux pieds d'Orodès la tête et la main de Crassus. Orodès comprit à l'instant même et sans explication. Et les Parthes présents au festin firent retentir la salle d'applaudissements et de cris de joie. Le roi fit asseoir Sylacès près de lui. De son côté, l'acteur Jason, qui chantait le rôle d'Agavé, comme nous l'avons dit, et qui en était à la scène entre Cadmus et Agavé, dans laquelle Agavé tient entre ses mains la tête de Panthée, que dans sa folie, elle prend pour une tête de lion. De son côté, disons-nous, l'acteur Jason, passant la tête de Panthée à un personnage du cœur et prenant celle de Crassus, s'écria, comme s'il continuait son rôle d'Agavé, mais en montrant la tête de Crassus au lieu de celle de Panthée, « J'apporte de la montagne un nouvel ornement pour mon Tirse, un brillant trophée de chasse. J'ai pris, comme tu peux le voir, ce lion dans mes filets. » La propos fut saisie avec fureur. Puis, comme il continuait son dialogue avec le cœur et que le cœur demandait « Qui lui a porté le coup mortel ?» Promaxatrès s'élança aux côtés de Jason et, lui arrachant la tête des mains, « Moi, moi » dit-il, répondant par le vers d'Euripide, « C'est à moi qu'en appartient l'honneur. » En effet, on se le rappelle, c'était lui qui avait tué Crassus et qui, l'ayant tué, lui avait coupé la tête et la main. Cet épisode inattendu compléta la fête, fête étrange, où luttaient ensemble la civilisation et la barbarie, la tragédie factice et la tragédie réelle. Orodès fit donner un talent à chacun des deux acteurs, un talent à Jason, un talent à Promaxatrès. Ce fut ainsi que se termina cette grande et folle entreprise de Crassus et que se rompit, par la mort d'un de ses membres, le premier triumvirat. Si l'on veut savoir ce que devinrent les autres acteurs de cette scène, nous allons le dire en deux mots. Le Surénat fut assassiné sur l'ordre d'Orodès. Par cette défaite de Crassus, il était devenu en quelque sorte plus grand que le roi. Orodès l'abattit comme un chêne qui fait trop d'ombre. Pacorus, son fils, qui venait d'épouser la sœur d'Artabaz et qui avait vu la tête et la main de Crassus jouer un rôle aux fêtes de ses noces, fut vaincu et tué dans une grande bataille qu'il livra aux Romains. Orodès tomba malade d'une hydropisie. La maladie était mortelle. Mais son second fils, Phraates, trouvant qu'il ne mourait pas assez vite, l'empoisonna. Or, il arriva, dit Plutarque, que le poison était le remède inconnu de la maladie dont était atteint Orodès, que la maladie le reçut et l'absorba, et qu'ils se chassèrent l'un l'autre. En conséquence, ajoute Plutarque, Orodès se sentit soulagé. Mais alors, Phraates prit la route la plus courte, il étrangla son père.